Ce sont deux hommes qui sont soupçonnés d'avoir pris part à une grande arnaque en se faisant passer pour des banquiers, qui ont été interpellés. Sauf que quand ils se sont fait interpeller, il y en a un qui était à la santé et l'autre qui était à Fresnes.
Oui, ils ont 20, 24, 26 ans et les trois bonhommes participaient à une escroquerie qui est visiblement très répandue, qui s'appelle Au Halo. On se fait passer pour des employés de banque et pour des policiers. Comment ça marche? En fait, on appelle en général ces personnes âgées qui sont piégées, hein. Donc la première escroquerie, c'est on appelle une personne de 76 ans, là, c'est une ressortissante suédoise. L'homme se présente comme étant son banquier. Ce dernier l'informe qu'elle a été victime d'une fraude sur ses comptes bancaires après un achat effectué sur Internet. Bon, très bien. Quelques minutes plus tard, un deuxième homme appelle. Là, il se fait passer pour un policier. Il lui confirme l'arnaque dont elle vient d'être victime et commence à questionner cette personne sur ses comptes. Et puis, il y a un troisième appel, c'est le troisième complice qui, lui, se fait passer pour un autre conseiller bancaire et qui réussit à convaincre la victime de lui fournir ses codes d'accès de son portail client pour qu'il puisse régler la question. Et puis voilà, donc forcément, une fois qu'ils ont récupéré les codes, etc., elle se fait complètement arnaquer et ses comptes sont vidés. Donc il y a trois personnes qui participaient à ça. Il y en a qui étaient à Fresnes, d'autres
à
la santé. Et
ouais,
les trois faisaient ça grâce à leur portable depuis leur cellule. Et donc les policiers ont remonté l'arnaque et ils ont été quand même assez surpris de s'apercevoir qu'il s'agissait de trois détenus. Et ça confirme un peu ce que disaient les magistrats marseillais à propos notamment de la prison des Beaumettes et des trafics des drogues. C'est-à-dire qu'on met des trafiquants de drogue en prison, mais ça ne change pas grand-chose dans leur business parce qu'ils continuent depuis leur cellule grâce notamment au portable.
Déjà, je pense qu'ils ont des complices à l'extérieur. Parce que
Ils participent à l'arnaque aussi derrière. Donc, il y en a qui viennent, ils appellent les complices, qui viennent sonner chez la dame en disant « Bonjour, vous avez été prévenu par votre banque ?» Alors toi, tu es là, tu dis « Oui, j'ai été prévenu par ma banque. »
N'importe
et
quoi.
L'arnaque continue.
Comme si le banquier, il allait faire avec ça à faire, avec toutes les arnaques, de sonner à la porte. Mais non, déjà ça, donc il y a beaucoup de conseillers d'aide extérieure. Mais surtout, je ne comprends pas. Je croyais qu'il y avait des brouilleurs à téléphone dans les prisons. Alors ça, moi, je ne comprends pas. Il n'y a pas de brouilleur de téléphonie.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que quand tu mets des brouilleurs, tu brouilles tous les portables, et notamment ceux des surveillants pénitentiaires.
Les surveillants pénitentiaires, ils peuvent avoir autre chose que des portables. Ils peuvent avoir des talkie-walkie. Ils peuvent être différenciés du circuit de réseau Wi-Fi.
Le truc, je ne comprends pas. Donc, en fait, parce que juste... que j'essaie de comprendre. Donc en gros, ils ont un forfait.
Chacun son portable.
Ils ont chacun leur portable.
Mais je rappelle que Madame Belloubet, quand elle était garde des Sceaux, elle avait acté le fait que de toute manière, ils n'arrivaient pas à lutter contre la prolifération des portables en prison et que donc finalement, il fallait autoriser, alors peut-être avec des forfaits limités, etc., mais il fallait mieux contrôler, donner des portables et contrôler plutôt que de faire
la même Madame Belloubet qui avait ouvert les cellules pendant le Covid pour laisser s'égayer tout ce petit monde.
Donc en fait, en gros, à la fin du mois, sur leur compte banque, en compte bancaire, tout naturellement, ils ont un prélèvement.
Non, c'est souvent du prépayé.
Oui, c'est souvent du prépayé.
Oui, et puis il y en a certains aussi qui arrivent à passer de manière illicite aussi auprès des détenus. Hein.
Donc en gros, officiellement, c'est interdit d'avoir un portable.
Donc le gouvernement a abandonné, donc il a accepté que tous les détenus.
Il y a un état de fait en fait.
Ce qui est dingue, c'est que quand on entend parler de la prison, t'as l'impression que c'est dans le film des Affranchis quand ils vont en tôle, que les mecs ils continuent à faire leur bouffe entre Italiens, qu'ils vivent leur vie tranquille, tu sais. C'était dans le film des Affranchis, c'est ça. C'est que les mecs ils sont peut-être même plus heureux dans une prison qu'à l'extérieur.
Rappelle-toi du film Le Prophète de Audiard.
Je te rappelle qu'on a des détenus qui font des. Excuse-moi, Bruno, mais qui font des vidéos TikTok, qui te postent sur les réseaux sociaux. On se souvient de l'été dernier de détenus qui, hors la porte de leur cellule, avaient mis des petites tables, tapaient le carton, faisaient même un barbecue. Ça avait été envoyé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui avaient des piscines gonflables, parce que comme il fait chaud, ça permet de se rafraîchir un peu. Donc ça, c'est une réalité. Je ne dis pas que c'est le club, mais dans quelle mesure
on ne laisse pas aussi ces petites libertés qui sont certes contraires au règlement, mais on achète aussi entre guillemets la paix sociale au sein
Avec un taux d'incarcération qui est à 120%, 125% dans les cellules.
Non, mais la piscine gonflable, le portable, non.
Faut quand même pas oublier, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on parle évidemment toujours des trucs qui vont mal.
Les escrocs.
Voilà. Mais c'est quand même fou parce que dans les prisons, tout le monde sait que les conditions certainement de détention en prison françaises, dans beaucoup de prisons, elles sont mais horrible. C'est-à-dire que les mecs qui vivent à je sais pas combien dans des pioules de 4, ils sont 8, 10, 12, ils dorment par terre. Enfin c'est un truc.
Là, on parle pas de ça.
Mais non, mais je sais bien. Et d'un autre côté, t'as des mecs quand même. Enfin, moi, je suis désolé et j'espère qu'il y a un maton qui va appeler. Mais à partir du moment que. Je crois pas que quand tu. À moins qu'ils soient pas assez nombreux dans leur prison pour savoir ce qui se passe dans leur prison. Mais je pense qu'à un moment, tu dois savoir ce qui se passe dans ton carré. Et dans ton carré, tu sais très bien que le mec qui a son téléphone, il peut faire des trucs. Enfin. Il y a des fouilles, je sais pas, j'ai pas de côté en zonzon, il m'expliquait, il y a des fouilles tout le temps, il te jette tout par terre et puis regarde tout ce que t'as sur toi, quoi.
Maintenant, quelle est la communication de la direction de la prison de la santé? Quelle est la communication de la direction de la prison de Fresnes? Est-ce que ce qu'on attend aussi, c'est que le direction de la prison s'exprime? Moi, je suis pas pour qu'on mette ça sur le dos des gardiens parce qu'ils sont épuisés par ce travail. Ils ont un mal à recruter, c'est vraiment un métier, mais ingrat au possible.
Donc, ils laissent faire.
Je crois qu'ils sont épuisés, comme certains enseignants peuvent laisser faire, comme certains policiers dans certains quartiers, quand t'as arrêté 4 fois le dealer, 4 fois il ressort, la 5e, tu te dis bon allez, on va en prendre un autre parce que celui-là, de toute façon, il ressort. Les matons, c'est pareil. À un moment donné, ils doivent en avoir ras-le-bol de certains détenus. Et puis, ils doivent penser aussi, bon après tout, eux, ils font que de l'arnaque au téléphone. Alors, ils préfèrent peut-être s'attaquer à ceux qui vont être plus menaçants, qui vont fabriquer des couteaux pour les agresser eux. Donc, je pense que vraiment, les gardiens de j'ai toute mon estime et mon admiration pour les gens qui font ce métier parce que c'est un métier très difficile, y compris les femmes matons, c'est vraiment très dur. Et je pense qu'ils sont pas aidés par leur direction eux non plus. Donc, moi, ce que j'aimerais bien entendre, c'est que fait le directeur.
Les gardiens de prison, t'inquiète pas, on va les avoir au 32-16. Frédéric Farah.
Est-ce qu'il y a d'autres arnaques en cours de ce type ou d'autres choses? Est-ce que dans ces prisons-là qui sont en cours, est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées ou est-ce qu'on est, c'est juste la pointe de l'iceberg et il y a bien d'autres choses?
Là, ils sont pas partis de la prison. Ils sont partis de l'arnaque en elle-même. J'imagine qu'ils ont remonté les portables. Tu disais, tu bornes les portables et ils sont tombés sur le portable de détenus.
Mais en même temps, je me demande, mais comment? Ils visent ces personnes, comment ils...
Oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, donc finalement, on te dit, on n'incarcère pas parce que la prison, c'est l'école de la délinquance.
Non, parce qu'il n'y a pas de place.
Oui, mais il y a pas de place. Il y a ça aussi. Puis on te dit, pourquoi mettre des jeunes dans une prison où en fait, ils vont ressortir encore plus aguerris, où ils vont être pris en main par des caïds qui vont les mettre à leur service quand ils sortiront. Donc on n'incarcère pas parce que c'est l'école de la délinquance. On n'incarcère pas parce que c'est l'école du djihadisme et du prosélytisme. Et on a vu ce qui s'était passé dans bon nombre de prisons aussi. Et quand on incarcère, finalement, tu apprends que les types, les magistrats de Marseille,
ils continuent
leur trafic, ils continuent leur combine d'arnaque.
Est-ce que tu voudrais nous dire qu'il y a un petit problème?
Si tu veux, après,
faut
pas s'étonner que les Français soient de plus en plus en colère et que derrière on dise mais vers quel pays va-t-on? Un pays fasciste, un pays de répression,
etc. Monsieur Macron nous avait promis 15 000 places de plus, on en est à peine à 2 000. On a des ministres de la justice, on a évoqué Madame Belloubet. Je ne crois pas non plus que Monsieur Dupond-Moretti soit particulièrement dur avec les prisonniers. Donc là, il se durcit un peu.
Souvenez-vous, sa première visite dans une prison, il avait été applaudi par les détenus.
Je me demande si c'était pas à Fresnes d'ailleurs.
Et après, c'était ses clients.
Là, depuis quelques mois, Monsieur Dupond-Moretti se met un peu à avoir un discours un peu plus dur. Ben, c'est normal. Il commence à entendre un peu ce que pense l'opinion publique. Donc, à un moment donné, faut peut-être que ça redescende. Mais je pense qu'effectivement, on a un déni. Alors que vous avez rapport parlementaire sur rapport sénatorial et rapport parlementaire qui se succèdent pour dire à quel point ça ne va pas, la gestion des prisons. Je ne sais pas. Sommes-nous gouvernés depuis Macron, Hollande, Sarkozy. Parce que Sarkozy, c'est la même cambouille.
Mais les institutions, et c'est banal à dire, c'est la crise à tous les étages. La prison, les profs, l'hôpital. Ça. Et le pays, il tient par quoi? Par ces institutions-là.
Normalement,
oui. Et que si ces institutions...
Il brinque balle. Hein.
Si ces institutions commencent à défaillir, ce qui est largement le cas depuis au moins 3 à 4 décennies, c'est évident.
Oui, mais c'est au-delà de la crise d'institution, parce que aujourd'hui, regarde, souvent la France se fait condamner pour non-respect des droits de l'homme dans les prisons. La France se fait condamner parce que elle n'a pas suffisamment de places de prison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ressent une culpabilité à faire en sorte que les prisons ressemblent à des prisons. C'est-à-dire que la prison, c'est pour protéger la société. Les gens qui se sont fait arnaquer, ils n'ont pas été protégés. Avec des gens qui, normalement, sont en prison, ne doivent pas avoir de téléphone portable, doivent respecter la discipline qui est imposée par les gardiens de prison. Il doit y avoir des fouilles. Aujourd'hui, quand tu fouilles, t'as des détenus et leurs familles qui portent plainte parce qu'ils ont été fouillés comme dans... et dans des manières qui ne sont pas qui ne sont pas dignes de la convention des droits de l'homme. Et je suis désolé, la prison, c'est tu rentres en tôle, tu dois plus rien faire de ce que tu fais normalement à l'extérieur quand t'es en tôle. Enfin, c'est ce qui me paraît être logique, quoi.
Oui, mais là,
c'est plus acceptable, ça.
Pourquoi c'est plus acceptable?
Tu dis ça, tu vas passer pour un mec dur, un facho, etc.
Bien sûr, parce qu'on vit dans une société qui estime que désormais, ce type de régime n'est plus acceptable parce que prisonnier ou pas prisonnier, il doit bénéficier de droits, de meilleures conditions,
ouais, etc. Mais de l'autre côté, t'as aussi des gens dans des prisons qui mangent en tête à tête avec des rats, qui vont au shot face à cette personne qui le regarde en train de chier.
On le sait, parce que c'est les détenus eux-mêmes qui ont filmé leurs conditions de détention. Je me souviens, la prison des Baumettes à Marseille.
Mais c'est précisément ça, c'est que tout ce qu'on leur accorde comme droit, c'est pour tenter de compenser l'insalubrité des locaux, la crasse des locaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est des prisons qui soient propres, qui soit pas insalubre, mais où du coup le entre guillemets le confort de détention permette de leur interdire les jeux vidéo et je vais même vous dire la télé, parce que en fait tout ça on devrait pouvoir l'interdire aux détenus, mais aujourd'hui
télé,
c'est normal qu'on leur donne parce que tu pourrais les faire travailler. T'as des pays où le taux d'activité en prison est bien plus élevé que la France, où le taux d'études, avant on étudiait beaucoup plus en prison qu'aujourd'hui. Moi je suis désolée, le temps de détention ça devrait être un temps. Oui, pour passer le CAPES de prof de maths. Mais non, mais sans rigoler, les détenus devraient plus avoir accès au travail, plus avoir accès à la formation, à la reprise d'études, au lieu de les laisser enfermer toute la journée à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo.
Et ça,
c'est pour cacher l'insalubrité aussi de notre système pénitentiaire.
De ces conditions de détention des détenus.
Pour les faire taire à coups d'anxiolytiques.
Qui menaient leur petit business d'arnaque depuis leur prison. Avec leur téléphone portable, je sais qu'il y a des gardiens de prison qui sont en train d'appeler au 32-16 ou d'anciens détenus. À tout de suite pour écouter leur témoignage avec vous, bien sûr. 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, la suite des réjouissances dans les GG puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi. Ce soir sur BFM TV à 21h, il y a le débat entre Jordan Bardella pour le Rassemblement National, la tête de liste Rassemblement National, et Valérie Ayer qui est la tête de liste pour la majorité actuelle. C'est à 21h sur BFM TV, ce sera mené, orchestré par Benjamin Duhamel. Benjamin va venir tout à l'heure dans les GG à 11h20. Nous expliquer comment il prépare ce débat, ce face-à-face, justement. Alors, c'est vrai que comme ça, ça paraît un peu déséquilibré, vu comme ça, parce qu'on a les dernières prestations de Madame Ayer ne sont pas très convaincantes face à une machine médiatique aujourd'hui qui est le jeune Bardella.
Oui, mais qu'on accuse de se planquer, c'est-à-dire de ne pas aller dans le fond des dossiers.
Et d'esquiver un peu les questions.
Donc, est-ce que Madame Ayer va réussir à bousculer Jordan Bardella et peut-être le pousser aussi face à ses contradictions?
Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure avec vous d'ailleurs, aussi au 32-16 à 11h20 avec Benjamin Duhamel. En attendant, c'est pas qu'on fasse mine de découvrir la mer dans les GG quand on nous dit que les trafics continuent en prison, mais on peut quand même être un peu étonné de voir quel trafic continue. Trafic de drogue, et puis là c'est des arnaques avec les téléphones portables où des gens de l'intérieur des prisons arrivent à arnaquer des citoyens, des arnaques bancaires quasiment. C'est Audric qui veut en parler avec nous, qui est dans les Landes. Bonjour Audric.
Oui bonjour les grandes gueules.
Parce que vous avez fait un an de prison.
Oui c'est ça, c'était en 2012.
En 2012, et effectivement, on laisse passer les portables et autres. On vous laisse faire ou pas, Audric?
On laisse pas faire. Bien sûr qu'il y a des fouilles pour les téléphones portables. Ils font des fouilles à peu près une fois par mois. Mais bon, les détenus, ça vous cache les téléphones. Et après, pour tout ce qui est de la drogue, ils sont, pour moi, de mon avis, ils sont au courant. Ils laissent passer pour la paix sociale dans la prison parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de drogue, il y a des bagarres en promenade, les détenus sont virulents. Donc c'est surtout pour eux, pour la sécurité même.
Oui, on fume beaucoup de cannabis en prison.
Exactement.
Ouais, pour être étingé, quoi.
Mais les téléphones aussi, on les laisse passer, Audric. Hein.
Les téléphones.
Mais alors attendez, quand on dit on les laisse passer, c'est-à-dire ils passent comment les téléphones, Audric?
Les téléphones, ils passent au parloir, hein, ils sont ramenés par les familles ou ils sont jetés par-dessus les murs.
Mais il n'y a pas de fouilles ensuite quand vous rentrez en cellule?
Il y a des fouilles quand vous rentrez en cellule. Mais vous savez, quand vous passez, vous allez au parloir une fois par semaine pendant un an, vous savez duper les surveillants. Hein.
Mais je crois que les fouilles systématiques sont désormais interdites. Hein.
Pardon?
Moi, je sais qu'en 2012, déjà, les fouilles à nu étaient interdites, mais on nous mettait à nu. Et malgré ça, ça n'empêchait pas les téléphones et la drogue de rentrer. Hein.
Oui. Mais Audric, donc, le téléphone qui rentre, C'est un téléphone avec lequel, sur lequel vous avez internet. Vous pouvez tout faire ou pas, Audric?
Ça dépend de quelle catégorie de téléphone vous avez. Si vous avez un smartphone, bien sûr, vous avez accès à tout ce que vous avez accès en dehors. Et si vous avez un téléphone lambda qui fait juste appel et messages, et bien vous pouvez appeler dehors et passer des messages.
Oui. Et alors, du coup, vous en avez eu un?
Oui, j'ai eu accès, oui.
Et alors, vous faisiez quoi avec votre téléphone, alors, Hendrik?
Ben, c'est les contacts à la famille. Moi, c'est pour mon cas, hein, les contacts à la famille, les contacts pour régler selon dans quoi, pourquoi vous êtes là. Mais après, il y en a beaucoup qui en font un mauvais usage, d'où justement les trafiquants qui eux continuent à gérer.
Donc vous étiez témoin de trafiquants qui continuaient de mener leur petit business de leur portable, quoi, en fait.
Mais bien sûr, ça tout le monde le sait.
Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que vous nous parlez de 2012. Et comme apparemment, enfin je crois, que ça ne va pas en s'arrangeant,
non,
me semble-t-il, alors j'imagine bien ce que ça doit être en 2024.
Il y a 10 ans, il me semble que les prisons étaient surpeuplées à 64 000 détenus, et je crois qu'aujourd'hui on est à
73
000. 73 000.
Voilà, on est à 10 000 détenus, ouais, de plus, donc voilà, les prisons sont encore bien.
On a un taux d'occupation de 127%.
Les fouilles corporelles intégrales systématiques des détenus sont interdites par la loi.
Depuis quand?
Depuis longtemps.
Depuis 2009.
Il me semble que c'est depuis 2009, mais c'est toujours pratiqué. Il y a des surveillants qui les pratiquent toujours. Hein. On vous fouille, on vous met à l'écart de votre cellule et on vous met.
On le fait pas tous les jours. Enfin, on fait le pas non, à chaque non, visite, les, voilà.
Fouille intégrale, j'entends bien finalement. Je comprends ce que vous voulez dire par là. Mais la fouille quand vous rentrez en cellule, on vous palpe pas de façon très serrée quand même.
Quand vous passez au parloir, il y a un portique. Il y a un portique qui est censé détecter tout ce qui est métaux qui rentre.
Donc ouais, déjà, tu parles. Un couteau céramique, ça sonne pas. Hein.
Oui. Donc déjà, les téléphones normalement sont censés sonner, mais après avec les années, les détenus et les complices à l'extérieur ont appris à enlever les ferrailles des téléphones. Du coup, le téléphone ne sonne plus dans les portiques. Du coup, tout passe.
D'accord, mais il sonne plus. Mais il faut bien qu'il se soit mis quelque part dans une poche ou dans quelque chose.
Barbara,
oui, d'accord, j'ai compris.
Barbara, si tu veux.
Non, mais j'ai compris. Mais tu vas pas mettre.
Je pense que Barbara, il n'y a pas besoin de dessin, il me semble.
Oui, mais tu vas pas mettre un portable. Tu vas pas mettre un smartphone.
Ce qui est marrant.
Tu vois, il dit non.
Il y a des téléphones qui font la taille d'un plug anal.
Ben oui, les petits Nokia, mais pas un smartphone.
Après, vous savez, il y a d'autres méthodes. On peut
faire des
Selon les prisons, il y a des colis qui sont jetés par-dessus les murs.
Voilà.
Il y avait des drones aussi, je crois. Il y a des. On a parlé de distribution de drones il n'y a pas longtemps.
C'est pas ça. Mais concernant les fouilles systématiques, ce qui est intéressant, c'est que c'est la droite au pouvoir,
oui,
Rachel Dati et Michel Alliot-Marie, qui avaient limité le recours aux fouilles intégrales systématiques. Et quand la gauche est revenue au pouvoir ensuite, Jean-Jacques Urvoas, à l'époque garde des Sceaux, avait voulu justement remettre plus de fouilles parce qu'il voyait bien qu'on faisait passer tout et n'importe quoi.
Heureusement que tu reparles de Jean-Jacques Urvoas.
Non, mais c'est intéressant ces débats, c'est pas forcément.
Non, mais c'est pour ça que franchement, la mythologie de les années Sarko, c'était dur, c'était. Non, mais.
Ah non, il a défoncé
le sarkozisme. Le sarkozisme a posé les jalons de toute la catastrophe.
Mais non, parce
qu'il faut dire dans tous les domaines.
Blanquer a supprimé des postes.
C'était déjà macronisme.
Mais bien sûr, rappelez-vous l'ouverture et toutes ces âneries.
Sarkozy préparait son après-mandat. Parce que Sarkozy, aujourd'hui, c'est quasiment des plus grands multicondamnés français. Donc il préparait son après-mandat.
Il est présumé toujours innocent.
Non, il a été condamné.
Audric, finalement, dans un instant, on va écouter Ludovic, qui est avec nous, qui est surveillant pénitentiaire. Mais de cette année de détention que vous avez fait, vous êtes allé en prison pourquoi, Audric, vous?
Ça, je préfère rester personnel.
D'accord.
Oui.
Bon, mais cette année de détention.
Je vais même aller plus loin. Vous savez, moi, quand j'ai passé un an de détention, j'ai même vu des surveillants prendre part au trafic de drogue. Hein.
Oui, ben ça suffit.
Ah oui, ça existe aussi. Les surveillants corrompus.
Même les surveillants, ils peuvent rentrer les téléphones, ils peuvent rentrer ce qu'ils veulent. C'est toujours pareil.
Ça a toujours existé.
De toute façon, en payant si mal ces surveillants,
c'est comme les flics ripoux, il y en a toujours eu.
Exactement.
Ça reste une minorité quand même, parce que par ailleurs, leurs conditions de travail sont épouvantables.
Ils sont sous-payés, à un moment donné, les mecs.
Oui, ne justifiez pas non plus le trafic.
Excuse-nous aussi, on est sous-payés, on ne fait pas du trafic de drogue à l'Éducation nationale.
Attendez.
Les conditions de travail sont aussi pas faciles pour eux, mais parce qu'ils ont des prisons surpeuplées, ils sont pas assez surveillants, donc forcément les conditions de travail sont pas faciles pour eux aussi. Hein.
Mais du coup, vous êtes ressorti de cette année de prison, ce que je veux dire, vous en êtes sorti, vous avez survécu, c'était dur, vous vous êtes arrangé, dites-moi alors.
Ah, moi je pense que on est des êtres humains, l'être humain s'habitue à tout et à partir du moment où on s'habitue à l'enfermement, on s'habitue à tout ça et c'est une habitude. Après on prend l'habitude d'avoir 2 heures de liberté par jour dans la journée et c'est tout quoi.
Et est-ce que justement sur votre temps de détention on vous a proposé des activités professionnelles, des activités de formation?
Bien sûr.
Et est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous poussait à avoir des activités à l'extérieur de votre cellule?
Ah oui, c'est sûr, on pousse les détenus à avoir des activités en dehors de la cellule.
D'accord. Alors Ludovic, Audric, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est Ludovic qui est surveillant pénitentiaire qui est là. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Alors c'est vrai qu'on est surpris sans l'être, mais les gars qui avec leur portable mènent depuis la cellule de Fresnes et de la Santé leurs petites arnaques, on s'interroge quand même Ludovic.
On s'interroge, moi ça fait 14 ans aujourd'hui que je fais ça, donc on sait un peu comment ça se passe. L'administration a installé des cabines téléphoniques en cellule pour que les détenus puissent appeler leur famille, leurs proches, H24 si vous voulez. Et le problème c'est que dans ces cabines-là, pour quelques euros de plus, l'administration aurait pu faire installer des brouilleurs dans chaque cellule et l'administration a refusé de les installer. Donc forcément, l'administration achète entre guillemets la paix sociale pour que les détenus puissent utiliser des téléphones portables.
En fait, voilà. Ça arrange tout le monde.
Voilà.
Ben, ça arrange certainement l'administration quand même.
Oui, mais enfin, vous voyez, quand même, il y a cette affaire d'escroquerie. Donc là, du coup, il y a quand même des victimes à l'extérieur, victimes de gens qui sont censés être enfermés, sanctionnés et ne plus nuire à la société.
Et je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, c'est l'administration qui doit répondre de ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faudrait entendre maintenant la direction de la santé, la direction de Fresnes, pour savoir ce qu'ils pensent de ça.
D'accord, mais Ludovic, même si vous rendez l'administration en partie responsable, il y a aussi le travail du surveillant. Quand il fouille les cellules, s'il trouve des portables, il les enlève, il les confisque.
Oui, mais je vais prendre le cas de Fresnes, puisque j'y ai travaillé pendant quelques années. Vous êtes un surveillant pour 120-130 détenus. Ils sont trois dans des cellules de 9 mètres carrés. Donc quand vous faites une fouille de cellules, ça devient compliqué à un moment donné de trouver tout ce qu'il faut, puisque vous avez un quart d'heure, 20 minutes pour fouiller 9 mètres carrés où il y a trois habitants à l'intérieur.
Et voilà. Moi j'entends Ludovic, mais j'imagine Ludovic le mal-être qu'il doit ressentir quand il voit ça sortir dans les médias et qu'après on dit tout le monde sorte. Bah, regardez les mecs en prison, ils sont plus heureux que dans leur vraie vie et que les surveillants de prison ils les laissent faire et qu'on peut même parler certains, enfin ils doivent être vraiment, ils sont un complice ou voilà. Moi j'imagine que vous dans votre boulot que vous essayez de faire correctement pour un salaire qui est dégueulasse. Parce que moi je me rappelle, j'ai un pote on avait passé le concours ensemble. Moi j'avais pas été au bout parce que je m'étais fait planter sur l'épreuve physique, mais il avait fait passer le concours des années 90 et c'était déjà hyper mal payé. Je crois qu'on était à l'époque à 5007 ou 6000 balles, je crois.
6000 francs de l'époque.
6000 francs, ouais.
Combien vous voyez, oui, allez-y.
Aujourd'hui, au niveau salaire, puisque vous en parlez, là maintenant, depuis le 1er janvier, on est passé en catégorie B, donc on gagne un petit peu plus. Enfin, moi, 14 ans de service, je gagne un peu plus de 2000 euros par mois.
Bah oui, mais pour les conditions de travail que vous avez, c'est rien.
Mais c'est rien, c'est des salaires.
Avec les horaires, etc. Enfin, la vie de famille d'un.
Et en plus, ce qui est très intéressant de bien entendre, c'est le ratio surveillant nombre.
Ouais, de détenus. Hein.
Mais oui. Écoutez, qu'est-ce que c'est un aide-soignant à l'hôpital? Combien il a Ludovic, de gens à traiter? Tout est comme ça, tout par rapport.
Je posais la question grande.
Et les juges, pareil.
D'accord. Mais vous me répondez franchement. Est-ce que vous fermez les yeux sur certaines choses que vous voyez, certains trafics pour avoir la paix?
Moi, personnellement, non. Mes collègues le savent et les détenus aussi, puisque, vous savez, en prison, les surveillants, ils ont tous un surnom. Et le mien, c'est le douanier dans l'établissement dans lequel je travaille parce que je fais trop de saisies dans les cellules.
Ouais. Mais certains de vos collègues
le font. Du coup, ça montre que d'autres collègues ne le font pas. Est-ce que vous avez justement des problèmes avec d'autres collègues qui vont considérer que vous faites trop de zèle?
Alors moi, personnellement, j'en ai pas, mais certainement que d'autres l'estiment, oui.
Et vous êtes récompensé au moins pour tout ce que vous faites comme travail? Est-ce que le fait que, par exemple, vous saisissiez plus fait que, par exemple, vous pouvez avoir des primes ou de la reconnaissance de votre hiérarchie?
Les primes, c'est impossible à avoir. La reconnaissance de la hiérarchie, c'est comme tout le monde. Hein. Quand vous faites quelque chose de bien, vous avez la reconnaissance éternelle de votre supérieur.
D'accord.
Voilà, c'est ça.
Une tape dans le dos.
Merci Ludovic d'avoir été dans les GG, monsieur le surveillant pénitentiaire. Merci, merci à vous. Claude, bonjour.
Oui, bonjour Alain.
Un dernier témoignage avec vous, Claude, parce que votre fille a été victime de cette arnaque, dites l'arnaque du halo avec la banque. Comment ça s'est passé?
Ça s'appelle aussi l'arnaque au faux conseiller. Mmh. C'est-à-dire que moi, ma fille, c'est simple, ils ont appelé un soir en se faisant passer pour la gendarmerie de mon village. Sachant que ma fille est étudiante à Nantes avec son appartement.
D'accord.
Donc, état de stress, bien sûr, pour ma fille, parce que moi, étant sur la route, elle a cru que j'avais eu un problème sur la route ou ma femme ou quoi que ce soit. Donc, un peu de stress et tout, et ils se font passer pour la gendarmerie en disant qu'un quart d'heure après, il va y avoir quelqu'un qui va l'appeler au niveau de la banque, son conseiller, parce qu'il y a des mouvements frauduleux sur son compte. Donc, sous l'étudiante un peu stressée, comme je le suis là, elle attend le coup de téléphone du conseiller, le conseiller l'appelle, et bizarrement, le conseiller a quand même beaucoup de données personnelles et de coordonnées. C'est-à-dire que, à savoir, moi c'était le LCL, à savoir que le LCL en 2021 s'est fait pirater des données personnelles de sa clientèle, et donc pour moi, ils ont automatiquement des complices à l'extérieur.
Ah oui.
Parce que c'est obligé, parce que ma fille, si vous voulez, il savait trop de trucs sur nous et sur ma fille, étant étudiante à Nantes. Ce qui fait qu'elle a pris conscience, ils jouent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à établir une relation de confiance avec leur arnaqué. Et à un moment donné, ma fille, c'est simple, elle m'a dit, écoute papa, ça a duré une heure et demie, j'ai eu l'impression que ça durait que 10 minutes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vous mettre la tête à l'envers. Ouais, et à un moment donné, ma fille, je lui dis, tu as quand même pas donné tes numéros de carte bancaire, tes numéros de carte bleue. Elle me dit, non, c'est pas ça, c'est qu'ils nous mettent tellement en confiance qu'à un moment donné, c'est eux qui nous donnent un numéro de compte. Et en fin de compte, ils rentrent dans un système où ils mettent leur argent sur ce faux compte IBAN. Et donc, ils arrivent à retirer jusqu'à ce que le plafond soit atteint.
Et combien, elle s'est fait arnaquer de combien, votre fille, alors?
À peu près 1 000 euros, un peu moins de 1 000 euros.
Tout ça pour 1 000 euros?
Ben oui, mais tu multiplies.
Incroyable.
Ils visent les comptes, c'est-à-dire qu'ils le font en deux fois. Comme c'est des prélèvements directs, automatiques, ils font en dessous de 1 000 euros. C'est-à-dire que moi, elle a fait un premier de 545, je crois, un deuxième de 400 et quelques, c'est en dessous de 1 000. Et à un moment donné, ils posent la question fatidique de est-ce qu'on va faire un dernier virement. Et là, comme par hasard, c'est tout rond, c'est 300. Et là, vous dépassez le plafond. Ça passe pas. Bon, mais je vous rappelle dans 5 minutes, vu que c'est pas passé. Et il rappelle jamais. Et là, ma gamine a compris qu'elle s'était fait arnaquer. Donc, coup de téléphone, et en plus.
Et on a retrouvé les arnaqueurs ou pas?
Alors, bien sûr que non. On a été porté plainte à la gendarmerie. Bon, la gendarmerie, ça, son travail. Peut-être que c'est les deux que vous avez.
C'est peut-être.
Claude, écoutez, merci. Vous avez été remboursé? Vous avez pu être remboursé ou pas?
C'est une bataille, pour passer par les médiateurs, parce que l'agence, bien sûr, ne veut rien savoir. Donc, il a fallu qu'on passe par le médiateur et on a obtenu à peu près 50% de remboursement, ce qu'ils estiment qu'il y a une part de responsabilité de l'étudiante, ce qui est normal, et également de la banque qui ne protège pas assez ses clients. Voilà.
Merci Claude, merci de cet exemple. Donc soyez vigilants, faites attention quand vous recevez des coups de fil en vous disant voilà, il y a un souci avec votre carte.
On reçoit des messages quasiment tous les jours
de
faux messages de banque ou autre.
Non, moi je reçois des messages de ma banque où quand j'ouvre mon application bancaire, j'ai d'abord soyez vigilants, les arnaques au téléphone.
Mais de toute façon, tout numéro de téléphone que je ne connais pas, je réponds pas.
Ouais, moi aussi.
C'est pour ça que tu me réponds jamais.
Ouais.
Merci de ces témoignages, de vos témoignages.